Et la compagnie des auteurs, elle vous est proposée comme chaque jour par son indispensable équipe composée de Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost, Gauthier Amiel, Didier Pinault à la réalisation, Laurence Millet et Réjeanne Leblanc à Radio-Canada.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, après un début de semaine consacré à l'anglaise Doris Lessing, prix Nobel 2017 de littérature, nous vous proposons d'évoquer une autre grande écrivaine, la brésilienne Clarice Lispector. Nous le faisons grâce à la nouvelle diffusion d'une émission de juin 2017 qui prenait à l'époque place dans un diptyque où nous parlions également de Machado de Assis. Machado de Assis, c'est l'auteur brésilien de Quincas Borba ou encore de L'Aliéniste, considéré par beaucoup comme le plus grand écrivain brésilien du 19e siècle. Vous pouvez retrouver ces deux premiers épisodes en podcast. Clarice Lispector à présent donc, l'une des figures mythiques de la littérature du Brésil, un sphinx qui fascinait ses compatriotes par sa beauté et la force de ses romans, une femme au personnage difficile à saisir qui s'est éteinte en 1977 à l'âge de 56 ans seulement après une vie marquée par l'exil de sa famille, du shtetl qu'il a vu naître en Ukraine vers le Brésil dont elle fera sa patrie. On lui doit des livres comme La Passion selon GH, mais aussi L'heure de l'étoile, ou encore Un souffle de vie, comme nous l'avons vu dans un épisode précédent avec Michel Riodel, lui aussi disponible en podcast. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui justement, nous avons la chance d'être en duplex depuis Montréal avec l'écrivain et journaliste Claire Varin, l'une des principales exégètes de Clarice Lispector. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Máquina escrevendo. Sinto que já cheguei quase à liberdade, a ponto de não precisar mais escrever. Se eu pudesse, deixava meu lugar nesta página em branco, cheio do maior silêncio. E cada um que olhasse o espaço em branco encheria com seus próprios desejos. Vamos falar a verdade. Isto aqui não é crônica coisa nenhuma. Isto é apenas. Não entra em gênero. Gêneros não me interessam mais. Interessa-me o mistério. Preciso ter um ritual para o mistério? Acho que sim. Para aprender a matemática das coisas. No entanto, já estou de algum modo presa à terra. Sou uma filha da natureza. Quero pegar, sentir, tocar, ser. Et tout ça déjà fait partie d'un tout, d'un mystère.
Je sens que déjà, je suis presque arrivé à la liberté, au point de ne plus avoir besoin d'écrire. Si je pouvais, je laisserais ma place sur cette page en blanc, pleine du plus grand silence. Et chacun qui verrait cet espace en blanc l'emplirait de ses propres désirs.
La voix de Clarice Lispector, traduite par son biographe Benjamin Moser, et qui lisait un extrait de ses chroniques dans la presse. Bonjour Claire Varin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, si loin et si proche, à Montréal, pour nous parler de Clarice Lispector, à qui vous avez consacré un essai. Vous aviez également rassemblé différents entretiens qu'elle avait donnés à la presse brésilienne, sous le titre « Clarice Lispector, rencontre brésilienne », livre qui a reparu aux éditions Triptyque en 2007, à l'occasion des 30 ans de la mort de l'écrivain. Alors, dans ce livre, il y a une phrase qui m'a intrigué et que j'avais envie de vous soumettre pour que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Je vous lis cette phrase. « Je n'écris pas pour me défouler. Je ne me suis jamais défoulé dans un livre. Les amis sont là pour ça. Je veux la chose en soi. » Claire Varin, comment entendez-vous cette phrase ?
Elle voulait la vie. La vie avant la pensée.
La vie avant la pensée.
la vie avant la pensée, avant que la raison ne s'en empare, avant que la raison ne s'empare des objets, des choses, des êtres. Et en même temps, c'est une quête d'identité, doublée d'une quête de dépersonnalisation. C'est ce qui m'a intéressée dans son œuvre. Sa démarche d'auteur. Clarisse disait, je ne m'intéresse pas aux faits, mais aux sensations, à la respiration, à l'intimité avec la chose qu'on atteint justement par l'ordre de la respiration. Donc, c'était... la logique, pour elle, c'est un anesthésiant. Elle voulait être avant la logique, derrière la pensée. Et elle ne voulait pas divertir. Divertir, c'est être hors du centre. Elle voulait aller au noyau, elle voulait aller au centre, au-delà du bien et du mal, du bon et du mauvais. Et même pour elle, la chose en soi, la chose proprement dite, elle était immatérielle. Parce que ce qu'on appelle chose, elle le dit d'ailleurs, ce qu'on appelle dans son testament, au fond, là, ses fragments testamentaires, un souffle de vie, que la chose est la condensation solide et visible d'une part de son aura. Et donc, tout est immatériel. En fait, elle avait un visage demi-asiatique au propre comme au figuré, hein, parce que elle sentait l'impermanence de toute chose. Elle l'a senti dès la mort de sa mère, sans doute, quand elle avait 9 ans. Et puis la mort de son père 10 ans plus tard. Et comment pouvez-vous penser à la permanence des choses? Et à ce moment-là, tout est impermanent et tout bouge. La chose, elle est simplement son aura. Elle disait ça d'ailleurs, c'est assez particulier. Ça fait un peu ésotérique, là. Mais en fait, voyez-vous, c'est curieux parce que c'est ce qui m'a intéressée dans son œuvre. Chacun a sa propre Clarisse, hein, ça, évidemment, hein, c'est une évidence, là, mais la Clarisse qui m'intéressait, c'était celle qui voulait percer le mystère du naturel, qui était pour elle surnaturel. Donc, et pour ça, elle écoutait sa respiration. Le matin, elle se levait et elle tournait en rond, elle fumait, elle buvait du café et elle attendait que l'inspiration vienne. Elle venait avec sa respiration, avec ses souffles. Et puis c'était d'ailleurs sa méthode d'écriture.
Mmh. Mais alors quand vous dites qu'elle n'était pas une intellectuelle, et c'est vrai qu'elle le disait elle-même, elle refusait l'intellectualisme, et en même temps elle parlait de la chose en soi, qui est quand même un concept kantien quasiment, enfin. Donc il y a une ambivalence toujours entre cette idée que, certes, elle n'était pas intellectuelle, mais en même temps elle était très intellectuelle.
Oui. Ben justement, ça fait partie de sa contradiction. Elle s'intéressait à la logique de la corrélation, sans la nommer. La logique de l'identité ne l'intéressait pas vraiment, parce qu'elle disait, par exemple, pourquoi 2 plus 2, ça fait 4? Est-ce que c'est une vérité naturelle ou est-ce que c'est un préjugé? C'est inventé? Donc, elle essayait toujours d'aller chercher, elle remettait tout en question. Elle était fascinante pour... Enfin, son œuvre est fascinante pour ça, parce que chaque phrase, dans chaque phrase, elle essaie d'atteindre un climax et puis d'aller avant le langage. Avec les mots, elle essaie d'atteindre ce qui est derrière le langage. C'est une tentative impossible à laquelle elle s'astreignait. Et je pense qu'elle le faisait pour renaître, pour ne pas mourir et pour renaître. Parce que quand elle est née, en fait, elle a toujours pensé qu'elle avait été conçue pour guérir sa mère, qui était
syphilitique.
Syphilitique. C'est ce que m'avait dit la secrétaire de Clarisse Lispector, Olga Borelli, qu'elle m'avait confié ce secret, justement. Et donc, par une croyance très répandue dans ce coin de pays, en Ukraine, là, dans cette région où les parents vivaient, on croyait que la naissance d'un enfant guérissait la personne, la mère de sa maladie. Mais Clarisse, elle a porté le poids de la faute tout le temps, croyant qu'elle n'avait pas guéri sa mère. En plus, elle a prié pour que sa mère guérisse et Dieu ne l'a pas entendue. Donc, ça, là, c'est en ce qui me concerne, toute ma démarche, quand j'ai fait la thèse de doctorat, là, c'était mes recherches, c'était ça, c'était les relations à sa mère et les relations à la langue maternelle également.
Parce qu'on n'a pas dit, hein, que vous aviez fait, en effet, Claire Varin, une thèse de doctorat et que c'est de là que tout est parti, finalement.
Oui, justement, parce que ma directrice de thèse, Monique Bosco, sur qui je viens de faire paraître un collectif, elle avait elle-même vécu l'exil et avait dû elle-même cacher sa langue maternelle. Et Et c'est elle qui m'a mise sur la piste. Demande, quand tu iras au Brésil, demande, s'il te plaît, ça va t'aider, demande quelle langue on parlait à la maison. Parce que vous savez que Clarisse, elle occultait complètement ses origines juives. Hein. C'était, mm-hmm. Et ça, c'était quelque chose. Et puis, toute son œuvre est marquée par le fait qu'elle ne dit pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était au propre et au figuré. Parce que quand les parents sont arrivés au Brésil en fuite des pogroms russes, les enfants ont pris un autre prénom, un prénom plus brésilien. Elle s'appelait Aya, qui veut dire vie, Clarisse. Alors, elle est devenue Clarisse et elle a toujours eu l'impression, justement, qu'elle ne disait jamais son vrai nom. Donc, c'est pour ça qu'elle avait cette quête d'identité. Et puis, elle savait qu'elle se considérait un peu comme un charlatan parce qu'elle ne disait jamais sa vérité, enfin, la vérité de son nom, quoi, au fond, et la vérité de ses origines. Oui. Et vous savez qu'une de ses collègues de travail m'a dit au Brésil qu'elle avait peur d'être expulsée du Brésil. C'était fort, la peur et la question juive.
Elle n'a eu la nationalité qu'assez tard, finalement.
Le père a demandé la naturalisation en 1942, donc elle avait 22 ans et elle était aux études en droit à ce moment-là. Et d'ailleurs, je pense que son premier travail, c'était observation sur les fondements du droit de punir, parce qu'elle se sentait coupable d'avoir échoué dans la grande mission qu'on lui avait confiée en naissant, comprenez-vous? Et puis... Quand c'est dans toute son œuvre, le rapport à la mère, et c'est très contradictoire parce qu'une mère paralytique, elle ne va jamais à vous. Vous devez toujours, enfant, aller vers la mère. Vous devenez la mère de votre mère. C'est, et la petite, elle avait besoin, hein, c'est comme tout le monde, de cette mère, même si elle était paralytique. Elle allait vers elle.
Alors, puisqu'on est précisément, Claire Varin, sur ces questions de filiation sur la mère et puis sur la langue qui est la langue d'origine, je vous propose d'écouter Hélène Sixou parler justement de la langue de Lee Spector et de son petit défaut de langue. On l'écoute.
Oui.
Enfin, elle a passé les deux premiers mois de son existence. Ses parents étaient des immigrants, hein, qui fuyaient justement le sort des Juifs dans ces pays-là, c'est-à-dire les pogroms. Mais elle s'est toujours vécue comme brésilienne, même si, je ne l'ai pas connue, hein, mais même si elle dit elle-même, donc c'est par sa parole écrite que je le sais, qu'elle a toujours eu une sorte de défaut de langue, dont on s'est toujours demandé, autour d'elle, on se demandait toujours qu'est-ce que c'est ça. C'était en fait un défaut de langue, ce que je trouve absolument ravissant, et qui probablement dit quelque chose justement comme signe ou comme symptôme de sa légère étrangeté. Alors il faut dire qu'elle travaille le brésilien pour l'étranger absolument. Il est son brésilien, qui est évidemment une merveille d'accomplissement dans la langue brésilienne, est en même temps écrit par elle, sculpté, brut, travaillé aux entournures, rendu constamment, justement, indécidable.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Claire Varin, ce défaut de langue de Lee Spector, c'est ça qui met un peu en lumière son décalage par rapport à la norme.
Mm-hmm. Oui, elle disait qu'elle avait la langue liée et qu'on pouvait l'opérer, mais que ça ne donnerait rien parce que la bouche est un endroit humide, elle se lirait aussitôt. Mais en réalité, elle aimait cette caractéristique qui la distinguait, qui lui donnait un air d'étrangère.
Qu'est-ce que ça faisait alors comme sonorité?
Ça fait aurora, comme un francophone qui ne parvient pas à prononcer le R doux des langues espagnole et portugaise.
Donc on savait très bien qu'elle n'était pas brésilienne quand on l'entendait parler, enfin qu'elle était brésilienne d'adoption, même si elle est arrivée très très jeune, ça s'entendait alors?
Pas vraiment, parce qu'elle disait qu'elle avait la langue liée, donc c'est un défaut de diction, mais qu'elle était brésilienne. C'est sûr que dès le départ, on a mis en cause sa brésilianité. Quand elle a fait paraître son premier roman, le critique Sergio Millier a dit, mais ce nom, ça doit être certainement un pseudonyme, ce nom désagréable, Clarisse Lispector, alors que c'est un nom magnifique.
C'est un nom qui fait peur.
c'est déjà un poème tout de même, ce nom, Clarice Lispector. C'est très beau, mais bon, enfin, oui, c'est ça. Donc, l'étrangère, mais en même temps, elle fascinait par son étrangeté. Elle était étrange à tout point de vue, d'ailleurs, hein, on s'entend. Mais j'aurais aimé revenir sur Hélène Cixous, parce que c'est grâce à elle que nous avons connu au Québec qu'il y a eu l'effet Clarisse au Québec, parce qu'elle est venue donner une série de conférences et elle venait de lire... elle avait découvert La Passion selon G.H., parue en français en 1978 à Paris. Et ça avait été, pour elle, un choc, hein, la découverte de l'œuvre de Clarisse Lispector, puis elle n'est pas la seule. Hein. Il y a vraiment un effet Clarisse. C'est comme s'il y avait un avant et un après Clarisse.
Ouais. Et y compris au Québec, aujourd'hui, vous diriez qu'elle est quelqu'un qui compte un petit peu, qu'on connaît un petit peu, ou est-ce que, comme en France d'ailleurs, on ne la lit pas assez?
Il y a eu une vague, justement, à l'époque où Hélène Cixous est arrivée. On s'est mise à la lire. Et surtout, en ce qui me concerne, j'ai décidé de... ça a été si fort. Hélène Cixous a parlé de La Passion selon G.H., qui est son cinquième roman et le plus génial, le roman de Clarisse Lispector.
Dont on parlera tout à l'heure.
Ah, d'accord. Et à la lecture, je me suis dit, c'est comme ça que je devrais écrire, je voudrais écrire... Et j'ai décidé de faire une thèse de doctorat sur son œuvre, d'apprendre le portugais et de partir vivre au Brésil, de tout laisser, l'amoureux, les chats, et de partir faire des recherches. Alors, si vous dire, l'effet Clarisse, c'est assez fort. Hein?
Et alors, quand vous êtes arrivé au Brésil, à Rio, c'est ça, vous êtes allé sur ses traces, vous avez rencontré sa famille. Racontez-nous un petit peu comment vous avez enquêté finalement sur elle. Elle était morte quelques années plus tôt seulement.
Oui, 5 ans auparavant. Moi, je suis arrivée là, elle est morte en 77, je suis arrivée en 83. Et comme je ne connaissais personne, j'avais quoi, 28 ans, toute seule comme une fleur, là, débarquée à Rio en plein été carioca, 40 degrés à l'ombre, je vous dis que ça donne un choc. Et ce que j'ai fait pour ne pas trop me perdre, tout de suite, j'ai pris contact avec le fils de Clarisse qui m'a donné une liste d'amis de Clarisse. Donc, une vingtaine d'auteurs, en général, c'était des auteurs, que je suis allée rencontrer à tour de rôle et qui m'ont parlé d'elle. Alors, on a vraiment fait revivre un fantôme. C'était assez particulier. Et en plus, j'avais le même accent qu'elle. Donc, et ça les amusait beaucoup. Ça les amusait beaucoup parce que je n'avais pas encore... Moi, j'avais appris la base du portugais à l'université. Mais évidemment, ma langue n'était pas totalement placée, là. Alors, moi aussi, j'y allais d'un Aurora et puis Barata au lieu de Barata.
Donc, il y avait une identification un petit peu comme ça entre vous. Enfin...
Oui, complètement. Puis, elle appelle ça beaucoup, Clarisse Lispector. C'est que pour la lire, il faut en quelque sorte se lier à elle. Et elle le disait aussi, elle demandait une réciprocité entre le lecteur et l'auteur. Par exemple, pour La Passion selon G.H., quelqu'un lui demande « Comment vous vous sentiez quand vous avez écrit ce livre ?» Elle dit « Comment vous vous sentiez, vous, quand vous l'avez lu ?» Et elle ajoute « C'est la façon dont moi je me sentais quand je l'ai écrit. »
Donc assez mal, on imagine, hein, parce que c'est un sentiment un peu de malaise qu'on ressent. Mais on va pas en parler tout de suite parce que vous avez découvert Rio et puis vous êtes allé évidemment essayer de comprendre cette ville et ce pays et puis vous avez découvert aussi une certaine forme de misère et ça vous a permis de comprendre mieux le regard que Clarisse Lispector, l'empathie qu'elle avait avec les pauvres.
Bien sûr. La misère, elle était à ce moment-là étalée partout. Les enfants qui nous demandaient à manger, qui étaient là à nous implorer du regard pour qu'on leur achète une pâtisserie, les mendiants qui étalaient leurs plaies pour avoir des sous. Et Clarisse elle-même, en fait, ça me permettait de mieux la comprendre, elle également, hein, ses personnages parfois, parce qu'il y en avait il y a des personnages qui sont. Elle s'attache. Elle était intéressée aussi à parler des gens simples ou des gens qui avaient de la difficulté dans la vie aussi, là, et ça me permettait de comprendre son enfance pauvre dans le nord du Brésil aussi, son enfance de petite fille juive. Vraiment, Elle, peut-être qu'elle a moins senti que ses sœurs, mais on peut dire qu'elles ont dû avoir faim.
Mais est-ce qu'elles avaient le yiddish en partage? Est-ce qu'elles ont gardé ce lait maternel qui était la langue maternelle, elles et ses sœurs?
Clarisse Lispector se disait très sensible aux voix. Et elle disait, elle écrivait « Je suis le résultat d'avoir entendu une voix chaude par le passé et d'être descendue du train juste avant qu'il ne s'arrête. Mm-hmm. » Alors, c'est toute la question de sa naissance en route. Donc, elle se disait tellement sensible aux voix et que dans son premier roman, il y a une femme qu'elle met en scène. Et cette femme, elle aime tellement sa voix et elle a l'air d'une mère en plus, le personnage. Et elle lui demande, est-ce que je peux... Elle aimait tellement sa voix qu'elle dit, est-ce que je peux revenir vous voir? Mm-hmm. Simplement pour entendre une voix qui ressemblait à la voix maternelle, la langue maternelle d'une certaine façon, la langue de la mère.
Et vous racontez pardonnez-moi. Oui,
ben justement, c'est ça. Alors, à la maison, on parlait le yiddish parce que quand je suis justement allée rencontrer les sœurs de Clarisse, Elisa, qui est aussi auteure, comme vous savez sans doute, mm-hmm. qui a écrit le roman En exil, ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle n'admette, qu'à la maison, on parlait le yiddish. Et c'est ce que ma directrice de thèse m'avait dit. Demande, c'est important. Effectivement, parce que Clarisse, elle s'est constituée avec, une double langue occulte, une espèce de dualité occulte. Et d'autant plus insinueuse, au fond, qu'elle cachait ça et qu'elle n'a jamais parlé le yiddish, mais qu'elle l'entendait à la maison, bien sûr. Et évidemment, les sœurs aînées comprenaient le yiddish, mm-hmm. c'est certain.
Et
mais
alors, vous dites,
très important.
Quand même, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites sur l'accent américain. Racontez-nous comment Clarisse Lispector avait attrapé son accent américain.
En traduisant une pièce, elle a fait de la traduction vers la fin de sa vie pour la gagner, subvenir à ses besoins après son divorce là, avec son mari. Mais elle était tellement justement empathique qu'à force de traduire, ce que je peux très bien comprendre, il y a moi-même traduit Clarisse, les entretiens et avoir entendu sa voix, c'est qu'on attrape l'accent.
Sur papier?
Oui, certainement, parce qu'en plus, elle a quand même vécu aux États-Unis, Clarisse. Donc, elle le connaissait. Elle connaissait la langue états-unienne, disons, pour ne pas dire américaine. Donc, qu'elle, toute petite d'ailleurs, qu'elle imitait beaucoup. Elle imitait les poules, elle-même le dit, elle imitait les poules, elle imitait les professeurs. Et c'est peut-être les seules fois où sa mère a ri, au fond, c'est quand Clarisse voulait tellement la faire rire qu'elle lui racontait la façon dont elle voyait les gens, ce sens de l'observation incroyable, cette acuité du regard qu'elle avait.
Au-delà de l'oreille existe un son, à l'extrémité du regard un aspect des choses, au bout des doigts un objet. C'est là que je vais. À la pointe du crayon, le trait. Là où expire une pensée, il y a une idée. À la dernière bouffée de joie, une autre joie. À la pointe de l'épée, la magie. C'est là que je vais. À la pointe des pieds, le saut. C'est un peu l'histoire de quelqu'un qui est parti et qui ne revint jamais. C'est là que je vais. J'y vais ou je n'y vais pas. Mais si, j'y vais. Et maintenant, je reviens pour voir comment vont les choses. Si elles sont toujours aussi magiques. Réalité, je t'attends là-bas où je vais.
La compagnie des auteurs avec cet extrait de « Où étais-tu pendant la nuit » de Clarice Lispector, interprété par Bulogier. Nous sommes toujours avec Claire Varin en duplex de Montréal. Claire Varin, tout à l'heure on a dit que Clarice Lispector aimait qu'on ne comprenne pas trop, qu'on n'intellectualise pas trop les textes. Elle, en tout cas, était plutôt dans une forme d'intuition. Vous racontez même, d'ailleurs, dans votre livre, à un moment donné, où elle va à un séminaire avec une amie. Vous pouvez nous le raconter vite fait?
Oui, c'est ça. Alors, l'amie la traîne à un séminaire de littérature et, à un moment donné, Clarice, excédée, dit à l'amie... veut qu'elle fasse un message aux gens à la table ronde. Elle dit, va dire à ces gens que si j'avais compris une seule des lignes dont qu'ils viennent dénoncer, je n'aurais pas écrit aucun de mes livres.
Voilà. Alors, donc, il y a ça d'un côté. Et puis, d'un autre côté, on a beaucoup dit, oui, mais Clarice Lispector, finalement, c'est aussi des textes d'une certaine opacité. Où étais-tu pendant la nuit? Ça n'est pas forcément un texte qui est donné comme ça d'emblée. Comment vous comprenez cette contradiction?
Non. Elle-même, elle ne se comprenait pas très bien.
Ah oui.
Il y a un de ses textes, parce que c'était de l'inspiration, elle le disait, elle disait, par exemple, d'une de ses nouvelles, la plus incompréhensible pour elle, et peut-être même aussi la plus géniale, parce qu'incompréhensible d'un certain point de vue et susceptible d'être interprétée de mille façons, l'œuf et la poule.
Oui.
L'œuf et la poule. C'est, l'œuf est l'âme de la poule, l'œuf est une chose suspendue. L'œuf est une... Parce qu'elle essayait de voir les objets avant que la raison ne s'en empare, comme on disait. Et donc, elle regarde un œuf et elle essaie. Alors, l'œuf est une extériorisation. Avoir une coquille, c'est se donner. L'œuf est une chose dont il faut prendre soin. C'est pourquoi la poule est le déguisement de l'œuf. Alors, c'est magnifique, je trouve. Elle a des analogies vraiment surprenantes.
Et ce poème, L'œuf et la poule, alors elle l'a lu à un congrès de sorcellerie en Colombie.
Exactement. Elle est restée... elle a demandé qu'on lise pour elle, en fait, parce qu'elle, elle lisait trop vite. Elle était très timide, hein, au fond, et puis... Donc, c'était... c'est ça. Donc, elle n'aimait tellement pas le climat, l'espèce de climat là, de magicien et tout, qu'elle s'est enfermée pendant 3 jours dans sa chambre d'hôtel plutôt que de circuler parmi tous ces gens qui jouaient à être ceci ou cela. Elle ne jouait pas. Hein.
Oui. Mais comment s'était-elle retrouvée finalement? Parce qu'on lui demande du coup de faire un oracle, j'imagine. Et puis elle lit son poème qui est le plus hermétique, hein, l'œuf ou la poule dont vous nous avez parlé. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait un côté ensorceleuse aussi
bien
quand même
sûr.
Chez elle?
Mais bien sûr, bien sûr. Un de ses amis m'a dit, fais attention, Otto Lara Resende, fais attention, Clarice, c'est de la sorcellerie. Parce que pour elle, oui, pour plusieurs raisons, il y avait un côté ensorceleur, évidemment. Là. Entre autres, parce qu'elle usait beaucoup de la figure de la répétition. Et elle disait, si je lis ceci 3 fois de suite, je tombe en extase. Alors, elle utilisait beaucoup les structures ternaires. Je flotte, je nage, je me répands, comprenez-vous? Alors, à un moment donné, il y a une espèce de rythme dans tout ça qui fait qu'on y va avec elle, mais c'est surtout qu'on va loin avec elle, qu'on voit l'envers des choses, qu'on voit... on est du côté de l'intuition, du côté de l'invisible. Alors,
il y a le chiffre 7 aussi, qui est un chiffre mythique. Et elle le voit un petit peu partout. Alors, bon, déjà, elle a fait 7 romans. À 7 ans, elle racontait déjà des histoires ensorcelantes. Et puis surtout, en 1977, c'est l'année de sa mort, elle a écrit le texte de présentation d'un calendrier de la Caisse économique fédérale brésilienne. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'elle dit, je peux vous lire la phrase.
Oui.
Je vous certifie que 1978, donc l'année qui arrive, est la véritable année kabbalistique, car la somme finale de ces unités est 7. Par conséquent, j'ai fait lustrer les instants du temps, rebriller les étoiles, laver de lait la lune et d'or liquide le soleil. à chaque début d'année, je commence à vivre. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre presque de l'irrationnel total. Et en même temps, de la poésie.
Oui, mais oui, c'est ça. Elle s'intéressait à aux aspects ésotériques et exotériques des nombres, hein, parce que, bon, évidemment, il y a la cabale, il y a les qualités que les anciens Grecs attribuaient aux nombres. Le 7, c'est la totalité en mouvement, c'est l'être humain et la totalité en mouvement. Donc, c'était très important pour elle. Et même, c'est ça, sa secrétaire me disait, parfois, elle me disait, écoute, essaie d'arriver à 7 pages ou essaie de ne pas dépasser 13 pages. C'est un côté un peu superstitieux, mais je pense que ça avait à voir justement avec ses origines juives, qui ressortaient hein, ici et là, et même dans son écriture, sans qu'on ne soit capable de discerner exactement les points de cette alchimie là, qu'on retrouvait dans ses textes. Donc, et aussi, bon, donc elle avait, quand elle était... petite, elle donnait des cours de mathématiques, donc c'était aussi les aspects donc ésotériques et exotériques des nombres qui l'intéressaient. Et elle disait, j'écris comme on additionne trois chiffres, les mathématiques de l'existence. Et même sa méthode d'écriture, c'était ça. Hein. Elle dit, j'ai beaucoup de petits fragments et je me rends compte que si je les additionne, ben ça fait un livre, ça fait un roman.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors Claire Varin, chaque jour dans la compagnie des auteurs, eh bien, nous recevons un représentant d'une revue ou d'un magazine qui traite de culture. Nous n'avons pas de revue québécoise encore, mais peut-être que ça viendra. Je vous présente ou je ne vous présente pas, car peut-être et même sans doute le connaissez-vous, Michel Crépu, directeur de la NRF, qui s'est installé en face de vous. Michel Crépu, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Avez-vous un roman préféré de Clarisse Lispector?
Non, parce que je ne connais pas bien Clarisse Lispector, mais je suis extrêmement intrigué par cette œuvre.
Donc beaucoup de curiosité.
Oui, beaucoup de curiosité. Je pensais aussi, en écoutant la conversation, à Gombrowicz. Autre exemple d'Européens qui débarquent dans le continent sud-américain. Alors pour Gombrowicz, c'est l'Argentine. Mais d'une certaine façon, il y a une similitude dans l'expérience, sans forcer, mais j'aime bien forcer un peu les rapprochements. Mais chez les deux, le monde européen est par essence un monde familier et le monde qu'incarne le Brésil est un monde qui échappe et du coup un regard décalé.
Il faut vraiment qu'on fasse une semaine sur Gombrowicz. Alors vous voulez nous parler, je crois, Michel Crépu, de Gada, l'italien Gada, qui est à la une de la NRF, c'est ça?
Alors, on l'évoque, Philippe Bordas, pardon, j'allais confondre, évoque l'œuvre de Gada qui a fait l'objet de retraductions récemment. Et Philippe Bordas, qui est un grand lecteur de... Ça nous ramène encore à des questions de sauvagerie et d'inconnu et d'Europe. Philippe Bordas est un grand amateur de Saint-Simon. S'est intéressé à Gada parce qu'il... Peut-être il trouvait, ou ça excitait sa curiosité de lecteur, d'aller chercher entre Saint-Simon et Gada, non pas des parentés qui n'auraient aucun sens, mais une certaine expérience du langage qui elle, est très baroque. Au fond, c'est une réflexion sur le baroque, cet article.
Également dans la NRF, un article cette fois sur Pierre Guyotat. On imagine que c'est au sujet de ses derniers romans parus chez Gallimard.
Voilà, il y a deux ouvrages, Par la main dans les enfers et Joyeux animaux de la misère, qui sont les deux derniers grands livres de Guyotat. Et Philippe Blanchon, qui a écrit cet article, je l'ai retenu parce que c'est très rare de lire de bonnes choses sur Guyotat. On est très vite dans le cliché, on est très vite dans la mythologie de l'écrivain maudit, le dernier à avoir été censuré, etc. etc.
Une mythologie qu'il entretient quand même assez savamment.
Mythologie à laquelle il est loin d'être étranger. Mais il y a une possibilité, et c'est ce que cet article de Philippe Blanchon montre très bien, une possibilité d'approcher calmement ce que Guyotat essaye de faire avec la langue française. C'est quelqu'un qui repasse par le latin, qui a une expérience du XVIe siècle, de Rabelais, et plus loin encore. Et donc, que Philippe Blanchon arrive à s'introduire, si je puis dire, dans la forêt guyotienne, je pense que c'est intéressant pour le lecteur, que même si on n'a pas envie de lire Guyotat.
Bon, à bientôt alors, à la rentrée.
À bientôt.
Ça pourrait être une marche du dindon, ça tient. Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture avec Clarisse Lispector, l'auteur de La Passion selon G.H., dont voici justement un extrait.
Mais c'est alors que je vis le visage du cafard. C'était un visage sans épaisseur. Les antennes sortaient comme des moustaches de chaque côté de la bouche. La bouche, marron, était bien dessinée. Les longues et fines moustaches, lentes et raides, remuaient. Ses yeux noirs à facettes regardaient. C'était un cafard vieux, comme un poisson fossilisé. C'était un cafard vieux comme les salamandres, les chimères, les griffons et les léviathans. Il était aussi ancien qu'une légende. Je regardais sa bouche. C'était une bouche réelle. Je n'avais jamais vu la bouche d'un cafard, et à vrai dire, je n'avais même jamais vu de cafard. Je n'avais fait qu'avoir de la répugnance pour leur existence antique et toujours actuelle, mais je n'en avais jamais affronté, même en pensée. Et voici que je découvrais qu'un cafard, aussi compact qu'il apparaisse, est formé d'écailles, et d'écailles superposées, fines comme les peaux d'un oignon, et comme si chacune pouvait être soulevée avec l'ongle sans qu'il cesse pour autant d'en apparaître une autre, et encore une autre. Peut-être ces écailles étaient-elles des ailes. Mais alors, ils devaient être faits de minces et de minces couches d'ailes, compressées jusqu'à former ce corps compact. Il était roussâtre et tout couvert de cils. Les cils seraient peut-être autant de jambes. Les antennes, maintenant, ne bougeaient plus.
La Passion selon G.H., livre saisissant de Clarisse Lispector, Claire Varin, qui date de 1964. Le sujet, c'est G.H., une femme sculpteur qui rencontre un cafard. C'est à peu près comme ça qu'on pourrait résumer l'histoire, si l'on peut appeler ça une histoire, de ce livre.
C'est fascinant. Un petit détail qui n'en est pas vraiment un, je considère que c'est assez important. Normalement, on devrait féminiser le cafard, c'est Bharata, la blatte, parce qu'elle s'identifie à cette blatte, à cette coquerelle. Nous, on dit coquerelle au Québec, je ne sais pas si vous utilisez le mot coquerelle.
Mais non, mais la blatte, c'est bien.
La blatte, ça va bien, parce qu'à certains endroits dans le texte, elle dit la mère est le cafard, parce que bon, la femme... Elle raconte, c'est un long monologue, comme vous savez. Elle nous raconte ce qui s'est passé dans la chambre la veille. Et cette rencontre avec un cafard qu'elle écrase contre la porte de l'armoire. Et donc, elle lui coupe le corps en deux. Et il y a toute une symbolique qui transparaît. On ne peut pas ne pas la voir quand on sait le rapport qu'elle a eu à sa mère assise. coupé à la ceinture, au fond. Hein, quand vous êtes assis, vous êtes... Bon. Et il y a toute une identification à la blatte, à la mère. Il y a une phrase qui dit la mère, elle a fille, elle a pu, elle a blatte, en fait. Comprenez-vous? Mm-hmm. Donc, il y a toute une lecture qu'on peut faire, plus psychanalytique peut-être, de la passion selon J.H., mais très intéressante. Moi, elle m'a beaucoup intéressée. Par ailleurs, c'est une expérience mystique. C'est comme la petite Thérèse, la Sainte Thérèse, qui va pour communier avec la matière vivante aussi, au fond, pour communier avec l'autre, qui va même jusqu'à porter à sa bouche le crachat d'un malade. Mm-hmm. Donc, c'est un peu dans le même sens. C'est sûr que c'est du mauvais goût, mais Clarisse Lispector le dit, il y a du mauvais goût dans le désordre de la vie, c'est dit dans la Passion. Donc... Si la blatte, c'est moi, je ne dois pas avoir de dégoût. Elle veut se défaire du dégoût.
Et donc, elle mange cette
donc
blatte.
Donc, elle finit par goûter ce qui sort des entrailles du cafard, la matière blanche qu'elle identifie même au lait. Enfin, il y a vraiment un travail très intéressant à faire. C'est un très, très beau cas pour la psychanalyse. Vraiment merveilleux. Sauf que, justement, pour c'est un aparté... J'avais rencontré sa psychanalyste, Inès Bezouchet, à Rio. Et elle m'a dit, « Oh, j'ai bien essayé, mais elle était rendue beaucoup trop loin, Clarisse. Mm-hmm. » C'est certain. Si vous écrivez La Passion selon J.H., vous n'êtes même plus psychanalysable. Vous avez dépassé le bien, le mal, le bon, le mauvais. Vous êtes capable de goûter aux entrailles d'un cafard.
Et elle disait qu'elle souhaitait que son livre soit lu uniquement par des personnes qui avaient une âme déjà formée.
Oui, qui pouvaient comprendre la spiritualité derrière l'acte, l'esprit derrière l'acte, parce que c'est quand même pas rien, hein. C'est quand même, il y a beaucoup de lecteurs qui sont incapables quand on met ce texte en scène, là, qui ont beaucoup de difficultés à l'entendre. C'est la répulsion, mais elle voulait aller au-delà de ça. Pour communier avec la matière vivante neutre qui ne devrait pas avoir de goût. Et effectivement, elle dit la blatte, en fait, ce qui sort d'elle, comme d'un tube de dentifrice, là. Ouais. N'a pas de goût, c'est le goût de la matière vivante, neutre.
Je voudrais vous faire écouter sur cette question que vous venez d'évoquer, au défleuré de la spiritualité, ce qu'en disait Biancotti.
Ah oui.
Toute l'œuvre est une quête de la réalité la plus intime, mais elle arrive à transcender cette quête, c'est comme si elle avait déjà trouvé dans ses meilleurs passages. Peut-être on ne sait pas très bien ce qu'elle a trouvé, mais on sent la sérénité de celle ou de celui qui a trouvé un sens, qui a découvert d'une façon obscure, mais néanmoins suffisante, l'essence de l'univers, et qui a compris que tout est en rapport, et que l'homme est en rapport avec toute chose, et dépend de toute chose, et que toute chose dépend de toutes les autres. C'est comme si j'avais oublié le livre, la matérialité du livre, les pages, les paragraphes, le déroulement de ce récit, et comme si je n'avais retenu que la substance, hein, en état d'avant ou d'après les mots. Et il y a quelque chose qui est comme l'écume à la crête de la vague. Et ça, c'est pur, pur des circonstances. C'est quelque chose de vraiment purifié. Elle est arrivée à éliminer les personnages, pas par un principe, par une esthétique littéraire, mais par une sorte de spiritualité, et ce que je dirais même de mysticisme. C'est-à-dire qu'elle a touché à l'essence des choses. Elle ne lui intéressait plus de raconter vraiment une histoire. Elle racontait l'histoire d'une âme.
Vous diriez, Claire Varin, comme Hector Biancotti, qu'elle avait découvert l'essence des choses et qu'au fond, peut-être malgré les apparences, elle était très apaisée.
Je ne dirais pas qu'elle était très apaisée, mais je dirais qu'elle avait touché au silence, oui. Et elle avait compris que nous ne sommes pas séparés et que tout est un. Mais elle avait compris intellectuellement au début de sa vie, de jeune adulte, parce que ça s'est inscrit comme tel dans Près du cœur sauvage, son premier roman. Mais elle l'a actualisé, elle l'a assimilé, ce tout est un, en communion avec la matière vivante du CAFA.
Vous voulez dire que dès le premier roman, Près du cœur sauvage, tout le programme de sa vie et tous les programmes des livres à venir sont déjà inscrits à l'intérieur de ce roman?
En germe, oui, oui, en germe, oui, exactement.
Et qu'est-ce que c'est ce programme, alors?
c'est la quête spirituelle, au fond. C'est la quête spirituelle. Il y a un prêtre qui a dit à Clarice Lispector, « Vous touchez le bord du manteau du Seigneur. » Bon, c'est sûr, c'est un prêtre chrétien, c'est quand même curieux, mais c'était une mystique sans secte, en fait, qui n'avait pas de... qui avait de la difficulté à se trouver parce que elle était seule avec ça. Je ne comprends même pas qu'elle ait pu épouser quelqu'un, vivre avec, et devenir une femme de diplomate. Au fond, c'était une mystique. Mais c'est parce qu'elle était sans doute très charnelle. Elle disait d'elle qu'elle était une campagnarde doublée d'une étoile, en fait. Hein.
Et ce premier roman, ce qui est fascinant, ce premier roman programme, elle l'écrit entre sa 7e et sa 17e année. Alors bon, il y a les chiffres 7 hein, qui reviennent encore une fois, mais est-ce que c'est la genèse finalement de l'écriture, enfin du mûrissement de Près du cœur sauvage, laisse à penser que finalement, dès le départ, Clarice Lispector porte en elle tout ce qui va arriver?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et c'est accentué, elle approfondit la vie parce qu'elle connaît la mort de près. La mort des parents, elle est jusqu'à la toute fin. Dans ses carnets intimes que m'avait montré sa secrétaire, elle confessait des secrets. Elle disait à l'âge adulte, « Je ne veux pas être séparée du corps de ma mère. I don't want to be a single body. Mm-hmm. » Elle veut la fusion. Elle aimait beaucoup les boules de mercure parce que ça fusionnait. Quand le thermomètre se brisait, oups, ça s'agglutinait. Elle avait besoin de corps. Elle avait besoin de corps. Elle avait besoin de sa mère. C'était une orpheline. Et elle racontait, pour ne pas mourir, la souffrance avait été énorme. Dans ses carnets intimes, elle raconte, « Papa, quand j'avais mal, il prenait ma main. » Et ça m'apaisait. Je ne crois pas qu'elle ait jamais vraiment été apaisée. Non, parce que même si vous touchez au silence vivant, que vous avez ce qu'on appelle une illumination, là, parce qu'il y a plusieurs illuminations possibles, mais vous ne restez pas là-dedans. Vous revenez à la vie sociale. Il faut que vous payiez vos factures. Mmh. Vous avez des gens autour de vous. C'est pas possible, à moins d'aller dans un couvent. Donc, c'était difficile. On ne peut pas rester dans cet état. Et même ceux qui atteignent l'état d'illumination ont de la difficulté à rester dans l'état.
Alors, il y a eu Près du cœur sauvage, et puis son dernier roman, est un roman testament qui fait un petit peu le miroir finalement à près du cœur sauvage qui annonce toute son œuvre. Son dernier roman, c'est Un souffle de vie. Il date de 1978. C'est un testament qu'on pourrait dire fragmenté, Claire Varin.
Oui, parce que en fait, c'est la secrétaire, c'est Olga qui a réuni les fragments, qui a réuni les phrases climax de Clarice Lispector, qui a réuni ses tentatives de capter l'instant, de capter le présent, de capter ce qui échappe toujours. On est toujours dans le passé ou dans le futur. Le présent, il nous échappe et c'est pour ça que c'est infini, cette quête. C'est infini. Les mystères sont innombrables. Les voiles sont innombrables.
Et alors, mis à part près du cœur sauvage, Un souffle de vie, La passion selon GH, quels seraient pour vous les romans les plus importants, ceux sur lesquels il faudrait absolument s'arrêter? Je sais que vous avez utilisé une métaphore pour qualifier l'œuvre de Clarice Lispector, qui est celle du temple. Alors, certains de ses livres sont les fondations du temple, d'autres de ses livres sont des pièces. Je crois que, par exemple, La passion selon GH, c'est une pièce, ce serait peut-être la pièce même principale. Quels sont les livres les plus importants?
Eh bien, je dirais, et mon avis est partagé par bien des lecteurs, Agua Viva. Mm-hmm. Agua Viva, qui est le summum de l'écriture du fragment. On peut prendre ce texte par n'importe quel bout, on est au cœur. On est au cœur de quelque chose. On est au cœur de l'entreprise de celle qui essaie de capter la vie.
Donc c'est l'un des derniers, c'est 1973.
Oui. Et elle disait qu'elle avait beaucoup de réticence par rapport à ce livre, et on lui disait d'ailleurs, probablement influencée par les amis critiques qui lui disaient, ben, il n'y a pas de structure dans ton livre. Il ne savait pas par quel bout prendre ça, hein, ce livre.
C'est l'histoire d'une femme peintre, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mais ce que je suggérerais également, ce sont ses nouvelles. Pour entrer dans son œuvre avec un peu de légèreté, disons, ses nouvelles sont une excellente entrée en matière parce que c'est là qu'elle se permet de l'humour. L'humour, c'est... Mais évidemment, c'est bien sûr que c'est quand même du Clarisse, là. C'est toujours spécial, c'est toujours particulier. Mais l'œuf et la poule, d'ailleurs, hein, c'est une de ces nouvelles. Je recommanderais les liens de famille. Oui, certainement, liens de famille. Et il faut féliciter les éditions des femmes, hein, qui ont vraiment fait connaître son œuvre en français, c'est assez extraordinaire.
Et tous les livres parus à Paris, en France, de Clarice Lispector le sont aux éditions des femmes. J'imagine que c'est sur ces éditions-là que vous avez aussi travaillé au Québec.
Oui, mais moi, j'ai travaillé en portugais davantage. Je me traduisais mes propres fragments, parce que la question de la traduction est aussi assez délicate. Hein? On ne traduit pas un dialogue de la même façon en France qu'au Québec. Ça, on pourrait prendre une autre heure pour parler des problèmes
mais
de traduction
malheureusement,
littéraire.
Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Claire Varin, on va devoir s'arrêter là, d'avoir accepté de nous parler de Clarice Lispector depuis Montréal. Je rappelle que vous avez consacré deux ouvrages à ce grand écrivain. Rencontre brésilienne, disponible depuis 2007 dans une édition revue et augmentée aux éditions Triptyque de Montréal, ainsi qu'un essai Langue de Feu, publié aux éditions 3 à Laval en 1990. Comme chaque jour, c'est Jacques Bonafé avec qui nous terminons la semaine. Il nous lit des extraits du Piano Ardent de Ronnie Somek.
Ronnie Somek écrit en hébreu, mais il est né à Bagdad en 1951. Mais depuis l'enfance, sa famille juive s'est fixée en Israël, où il vit aujourd'hui. Pour avoir la vie sauve dans cette guerre, il cousait les bottes d'officier SS qui le rouaient de coups. Quand il me montra ses mains, voulait-il que j'admire la peau dure du professionnel ? Avec ses doigts, pleurait-il presque, je les aurais étranglés, mais chaque botte sauvait un de mes frères. Il n'avait jamais abandonné son marteau, et si l'Académie de la langue lui avait donné un siège, ses clous se seraient appelés Hitler, Eichmann ou Mengele. Il avait d'autant plus de plaisir qu'il écrasait leur tête et courbait leur dos jusqu'à la soumission complète dans l'obscurité des semelles. Ô vengeance, c'est seulement pour cette histoire qu'il est possible parfois de t'aimer. Une panthère de porcelaine rampe devant moi dans la pièce, les pattes repliées dans le creux de son ventre. Ses yeux colorés reflètent le troupeau qu'elle va mettre en pièces dans les jungles de son rêve. Moi aussi, je savais cacher mes griffes, me diluer dans le cognac des bêtes sauvages. Buchenwald. Un mot s'est échappé. Quand on a descendu Madame Clara sur un drap du deuxième étage, dans l'ambulance, avant d'entendre qu'elle s'était pendue dans la salle de bain, nous avons demandé de quelle maladie elle était morte, et son mari a lâché Buchenwald. Quand Ronny Somek se souvient des jours de son arrivée en Israël, ça donne hymne des enfants d'ouvriers étrangers. Nous sommes les enfants aux cheveux de laine d'acier, des volcans sous les paupières et la langue pour prévenir l'avalanche des rochers durs du sommet de la Torah. Nous avons grandi entre les taches de ciment sur la chemise de papa et les serpillères de maman qui ont nettoyé les chambres de vos maisons et celles de notre cœur. Impossible d'oublier le poème de Bialik que vous nous avez appris à l'école. La fleur arrachée au jardin, nous avons dessiné des mouchoirs et essuyé la rosée du matin sur sa tige, sans savoir que ces mouchoirs seront les nôtres. Sa beauté. Il me restait 30 mots pour décrire sa beauté. J'en avais déjà gaspillé 13, les autres sont cachés dans un bonnet qui dissimulera mon visage quand je viendrai dévaliser l'amour. Yaï, blouse du mannequin nu ressuscitait des souvenirs de l'école de dessin. Elle ne m'a pas reconnu. Des années étaient passées depuis la nuit où j'avais pointé sur elle un revolver qui avait perforé les nuages que je cachais sous l'oreiller. L'autobus ne se pressait pas d'arriver, elle allumait une autre cigarette. Peut-être voulait-elle couvrir de fumée une mauvaise copie d'un tableau de Toulouse-Lautrec, le panneau d'une lingerie féminine Moulin Rouge. Toute une armée de cavaliers a galopé dessus depuis, et rien n'a fait oublier un centimètre de sa chair. La première fois que je me suis approché d'elle, elle a dit que le cours de peinture était pire qu'un peloton d'exécution, qu'elle devait se laver pour enlever tous les pinceaux qui se sont plantés en elle. Ah, lui ai-je dit, tu n'es pas une fille à qui l'on demande pour commencer de quel signe elle est ? Mon signe, répondit-elle, tu l'as vite reconnue.
Merci Jacques Bonafé pour ces textes de Ronny Somek. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Gauthier Amiel, Corinne Amar, Laurence Millet. Avec à la console aujourd'hui à Paris, Jean-Richard Dufour et à Radio-Canada, Réjeanne Leblanc. La semaine prochaine, nous évoquerons la figure et l'œuvre de l'écrivain Amadou Kourouma. Demain, c'est la Compagnie des poètes de Manou Farine que vous retrouvez. Très bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.